Radio Cité Genève. Genève, c'est vous. Midi El Aboudi.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Genève, c'est vous. Et Genève, c'est vous. Aujourd'hui, encore une fois, Sophia Pérez, vous êtes la directrice de Stop Suicide. Vous avez déjà enregistré 2 épisodes de Genève, c'est vous avec nous. Et voilà le 3e, car on a encore pas mal de sujets à évoquer. Et notamment, on va commencer tout de suite par ces ateliers que vous évoquiez à la fin du 2e épisode. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces ateliers que vous proposez à Stop Suicide et notamment leur contenu?
Alors la première étape, c'est de créer le contact finalement entre les jeunes et puis les personnes qui interviennent. On intervient toujours à 2, une animatrice ou un animateur et un ou une psychologue. L'idée de la psychologue ou le psychologue, c'est au cas où la thématique réveille beaucoup de choses, que le ou la jeune puisse avoir quand même une discussion en individuel. Après, elle n'est pas là pour faire, enfin, la psychologue n'est pas là pour faire un suivi. C'est vraiment juste sur le moment pour pouvoir évaluer un petit peu la situation et voir si la personne a besoin d'une prise en charge plus urgente. Mais du coup, sinon, par rapport à l'atelier, donc il y a d'abord briser la glace un petit peu avec les jeunes, se présenter, créer le contact. Après, la première partie, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être de déconstruire certaines idées reçues. Le fait que parler ne va pas donner envie, le fait de ne pas garder le secret qui est très important, par exemple. On dit, s'il y a un ami à vous qui vous confie des pensées suicidaires, est-ce que vous gardez le secret parce qu'il vous l'a demandé ou pas? Enfin, voilà, on essaie de déconstruire ça. La question du choix aussi, souvent on a l'impression que le suicide est un choix. Donc là, l'idée, c'est de montrer que non, c'est pas le cas. Et puis que le suicide, c'est un non-choix, que c'est vraiment une détresse qui est tellement énorme que la personne ne voit pas d'autre solution, mais c'est pas un choix rationnel, comme on en fait plein tout au long de notre journée. Donc voilà, il y a vraiment première partie, déconstruction d'idées reçues. Ensuite, il y a une petite partie théorique sur ces idées reçues, parce qu'au début, c'est plutôt interactif. On va demander aux jeunes, finalement, pour vous, est-ce que le suicide, c'est un choix, pas un choix? Puis on les laisse discuter entre eux, débattre, voir ce qu'il en ressort un petit peu. Ensuite, une des autres parties, ça va être des vignettes qui vont mettre en avant différentes situations. Ça va dépendre du contexte dans lequel on intervient, mais ça peut être une situation avec un coming out, ça peut être une situation avec une personne qui a des pensées suicidaires, ça peut être une situation d'une personne qui est harcelée. Puis on fait travailler les jeunes autour de ces vignettes. Puis les questions sont les mêmes, dans cette situation, qu'est-ce qui t'inquiète toi? C'est ton ami, qu'est-ce qui t'inquiète? Comment est-ce que tu réagirais? Vers qui est-ce que tu irais chercher de l'aide? Et l'idée, c'est qu'ils travaillent en petits groupes pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut venir en aide à cet ami fictif qui ne va pas bien. Et ensuite, il y a une restitution commune pour voir un petit peu quelles sont les choses qui ressortent, que ce soit tant au niveau de leur propre ressenti sur qu'est-ce qui les a inquiétés, et puis comment est-ce qu'ils vont agir tout en respectant leurs propres limites. Parce que l'idée, c'est pas de porter la souffrance d'un proche non plus, c'est de pouvoir l'accompagner et puis savoir prendre soin de soi-même. Donc cette partie-là est assez importante. Et puis du coup, suite à ça, on revient un petit peu... À travers ces situations, on aura vu que ce qui les inquiète, finalement, c'est des signaux d'alerte qui sont mis en avant. Je sais que dans la situation sur le harcèlement, elle va porter des vêtements plus larges, qui vont la couvrir plus. Il y a des questions de le fait qu'elle vienne plus en cours du tout, qu'elle sèche. C'est tous des éléments qui vont être mis en avant, du coup, finalement, par les jeunes eux-mêmes. Puis du coup, on finit par une partie un petit peu théorique sur les signaux d'alerte, les conseils. Et la conclusion est autour des ressources personnelles, mais aussi ressources professionnelles qui sont à l'extérieur, comme le 147 par exemple, mais aussi les ressources qui sont au sein de l'établissement. Quand par exemple on intervient en milieu scolaire, il y a des infirmières qui sont là, infirmières, psychologues, etc. Et du coup, c'est important pour nous de terminer vraiment avec les ressources qui sont à disposition pour les jeunes.
Il y a cette question aussi, j'ai l'impression que parfois on est dans un cercle vicieux pour les jeunes. On entend souvent « oui, mais j'ai pas trop le droit de me plaindre parce que par rapport à ce qui se passe ailleurs, par rapport aux problèmes d'un tel ou d'une telle, mes problèmes finalement sont secondaires et j'ai pas le droit de me plaindre ». On rentre dans un cercle vicieux d'auto-culpabilisation, de dire « je vais pas bien pour des problèmes qui, on a l'impression, n'en valent pas la peine ». Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi parfois dans ces ateliers, dans ces discussions que vous pouvez avoir avec les jeunes, et surtout comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cercle vicieux?
Alors bien sûr que c'est des choses qui peuvent ressortir et qui ressortent. Après, l'idée, c'est de le message qu'on essaie vraiment de faire passer à tout le monde, c'est que en fait on est tous différents et différentes, et l'important, c'est de le fait déjà de se rendre compte qu'il y a une distinction, c'est plutôt un bon signe, un signe de bienveillance, un signe d'empathie, mais ce qui n'empêche pas de considérer que c'est important de prendre soin de soi-même, parce que si on prend pas soin de soi-même, ça va être difficile de prendre soin des autres. Et dans cette discussion, en général, ils sont plutôt preneurs et ils sont plutôt compréhensifs, finalement, du message qu'on essaye de faire passer pour eux et pour leurs proches.
Ouais, c'est tout passe par la discussion finalement. C'est se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, se rendre compte que chaque cas est différent aussi. C'est pas parce que certains signaux sont immenses chez certaines personnes qu'ils n'existent pas chez d'autres, qu'ils les cachent mieux. Et puis certains signaux ne veulent pas forcément dire la même chose. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. C'est pour ça qu'il faut communiquer. C'est pour ça qu'il faut être sensibilisé. On en revient à Stop Suicide aussi. On parle des jeunes depuis tout à l'heure. C'est votre cible ces jeunes, cette sensibilisation chez les jeunes. Forcément, quand on parle de santé mentale et de jeunes, on parle réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont si nocifs que ça pour les jeunes? Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont comme impact sur la santé mentale des jeunes?
Alors, les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale des jeunes. Après, elle peut en avoir plusieurs. On sait aujourd'hui, d'ailleurs, la dernière étude des HUG le montre, hein, que la présence des réseaux sociaux et des écrans dans la vie des jeunes est un signe, une trop grande présence, disons, après tout est relatif aujourd'hui, hein. Ils ont forcément un impact. Après, moi, comme j'aime le dire aussi, les réseaux sociaux, c'est pas que un impact négatif avec du contenu négatif, c'est aussi un impact positif. Si on regarde aujourd'hui la multiplication des ressources, des vidéos préventives, des comptes, et puis même de l'implication de certains influenceurs et influenceuses, qui vont parler de la santé mentale. Enfin voilà, on a parlé de certains très connus, mais il y a aussi des influenceurs, influenceuses au niveau local qui sont moins connus, mais qui ont des followers et qui abordent la thématique et puis qui sont des ressources riches pour les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sont là, on va pas pouvoir faire sans. Donc ce qui est important, c'est de continuer à pouvoir transmettre un message positif à travers ces réseaux.
Il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est notamment le cyberharcèlement qu'il peut y avoir. Le positif, c'est aussi les élans, comme on a vu pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, vers le 22 mai, je crois, c'était quelque chose comme ça. Une Lausannoise qui a dit qu'elle était en détresse sur X, l'ancien Twitter. Et il y a eu une chaîne de solidarité qui s'est créée pour que les gens puissent contacter sa famille, contacter la police vaudoise, qui a été fait via les réseaux sociaux. Cette jeune femme a pu être ensuite prise en charge par les secours parce que les réseaux sociaux se sont mobilisés aussi. Voilà, c'est important de le dire. Il y a beaucoup de mauvais sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de bons aussi. Finalement, tout dépend ce qu'on en fait. On en revient à ça. Vous nous avez parlé de votre campagne aussi, campagne annuelle qui a eu lieu donc l'année dernière. Quand est-ce qu'elle aura lieu en 2024? Quel en sera le thème, s'il y a un thème particulier? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place?
Bien sûr. Donc, il y a une campagne chaque année. Stop Suicide mène chaque année une campagne autour du 10 septembre. C'est la journée mondiale de prévention du suicide. Et l'idée autour de chaque campagne, c'est de développer un thème. Donc, l'année dernière et l'année précédente, c'était la déstigmatisation des ressources professionnelles. Puis on avait pris deux angles. La première année à travers des professionnels qui expliquaient quelles étaient leurs fonctions. Et la deuxième année à travers des influenceurs, influenceuses qui expliquaient à quelles ressources est-ce qu'ils ont eu recours, pour quelles raisons et puis comment est-ce que ça les avait aidés. En 2024, on a décidé de se concentrer sur l'importance du lien, le lien entre personnes à sens très large, hein, dans le sens où on peut sentir du lien, on peut sentir du relationnel en faisant du bénévolat, sans avoir de contact direct avec les personnes. On va se sentir comme faisant partie d'une communauté. De la même façon que quand on fait du sport ou qu'on court, on sait qu'on fait partie d'une communauté. Puis l'idée, c'est de pouvoir vraiment mettre en avant ce lien qui est si important et qui est vraiment un facteur de protection contre le suicide. Donc lien très large, mais aussi lien entre les pères, lien entre les parents. Donc l'idée, c'est qu'on a de la chance d'avoir un certain nombre d'influenceurs et influenceuses qui ont accepté de témoigner pour cette campagne. Et en fait, chacun et chacune va nous expliquer quel lien en particulier lui fait du bien, ou pas forcément en particulier, mais celui auquel il a pensé. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir montrer aux jeunes qu'il y a plein de choses différentes et puis qu'elles peuvent aussi se matérialiser différemment. Le fait de faire du sport, pour certains, ça va être le sport en soi. Pour d'autres, ça va être le fait de le faire en équipe et puis d'avoir une communauté. Enfin voilà. Et l'idée, c'est de montrer, c'est que quel soit le lien qui est mis en avant, bah il peut faire la différence et que c'est ça qui fait qu'on est là et qu'on a envie de rester là aussi.
Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sophia Pérez. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'association Stop Suicide, qu'on met en avant ces derniers jours dans Genève, c'est vous, car le combat vaut vraiment la peine. Il faut parler de tout ça, parler de la santé mentale, parler du risque suicidaire. Il faut surtout ne pas éviter le sujet. Il faut en parler, car en parler, eh bien, c'est le premier moyen, c'est le premier pas pour aller mieux. En parler, c'est aussi se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et puis, on rappelle, encore une fois, dans la conclusion de cet épisode, les numéros d'urgence à connaître dans le canton de Genève. Le 147, si vous êtes jeune, que vous avez besoin de parler, voilà, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 143, évidemment, la main tendue qu'on avait reçue il y a quelques mois dans Genève, c'est vous. Et puis, on peut également citer le 144 pour les ambulances ou encore le 117 pour la police. Voilà, ce sont des numéros très simples qui sont à retenir et qui peuvent sauver des vies. On va continuer à parler de Stop Suicide, Sophia, dès demain, dans un nouvel épisode qui vous sera consacré. En attendant, vous pouvez retrouver celui-ci ainsi que tous les autres en podcast sur tous nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site radiocité.ch.